L'évangile de ce dimanche nous donne à contempler le regard de Jésus, ce regard qu'il pose sur les hommes, les femmes, ses contemporains, cette foule qui se presse pour venir à lui, cette foule de personnes, comme il est dit, désemparées, abattues, comme des brebis sans berger. Et plus loin, il parlera des brebis perdues d'Israël. Lui, le bon berger par excellence, ne peut pas rester indifférent devant ce désert spirituel qui habite le cœur de cette foule. Souvent, il va prendre l'initiative lui-même d'enseigner longuement ces foules. Aujourd'hui, nous le voyons dans une autre attitude. C'est le jour où il va appeler. Après avoir dit, après avoir demandé, prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson, lui-même va appeler ses premiers disciples. Et il nous dit que les 12, il les envoie. Il les envoie pour démultiplier son propre ministère, pour démultiplier cet amour qui l'habite et qu'il veut répandre dans le monde comme un feu qui dévore. Les pouvoirs qu'il donne à ses 12 sont immenses. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Oui, jusqu'à ressusciter les morts. Peut-être pas les ressusciter sur le plan simplement biologique, mais beaucoup plus important, ressusciter l'espérance dans les cœurs, appeler ou réappeler à la vie, soit encore redonner une raison de vivre. Et c'est là que les tout derniers mots de notre évangile me paraissent spécialement lumineux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est une injonction. Encore faut-il commencer soi-même par reconnaître à quel point nous avons reçu gratuitement. Encore faut-il s'approprier cette parole que Jésus va dire à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, pour toi. Il est tellement immense que tu risques bien de ne pas le voir. » Et c'est un paradoxe. Oui, si tu savais le don de Dieu. Commencez par reconnaître ce que nous recevons constamment de lui, que nous recevons comme une pure initiative de sa part. De même que le peuple hébreu a pu s'entendre dire par Moïse, « Vous avez vu, c'est Dieu qui parle, vous avez vu ce que j'ai fait, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle. » Et vous est amené jusqu'à moi. L'initiative de Dieu est totalement gratuite, totalement imméritée de notre part. Et Paul, dans sa lettre aux Romains que nous venons d'entendre, va jusqu'à dire « Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis. » Heureusement pour nous, Dieu ne nous a pas enfermés dans ce statut d'ennemi de Dieu, mais il a pris l'initiative de venir à nous à travers son Fils pour nous sauver sans condition. Comprendre que ce don de Dieu pour chacun, chacune de nous est une pure initiative qui s'adresse de façon unique, personnelle, qu'elle est totalement imméritée de notre part, cela nous conduit à une troisième attitude, celle qui consiste à faire mémoire du don reçu, du don que nous recevons constamment à cet instant même où je parle. Et c'est pour nous cette lutte contre une attitude que nous cultivons si facilement, sans même nous en rendre compte, et qui s'appelle l'oubli. C'est redoutable, l'oubli, car l'oubli conduit à l'ingratitude, à l'indifférence, à la froideur du cœur. Le psalmiste était très conscient de cette nécessité de devoir faire mémoire du don de Dieu. Il y a en tout cas au moins deux psaumes qui le disent, et dès leur premier verset, le psaume 102 et le psaume 103, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà ce que nous devrions nous exercer constamment à faire. Un véritable exercice de mémoire. Et si nous sommes fidèles à cet exercice de la mémoire des dons reçus, du don reçu, nous découvrirons que faire mémoire d'une grâce, c'est une nouvelle grâce. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Si la grâce de Dieu est en fait simplement sa vie qui nous est offerte, cette vie ne peut jamais s'interrompre puisqu'elle est divine. Et donc la grâce non plus ne s'interrompt jamais. Faire mémoire d'une grâce reçue, c'est-à-dire demeurer accueillant à cette vie de Dieu qui m'interpelle maintenant même, c'est une grâce nouvelle, perpétuellement nouvelle. Et il me semble que cette attitude est le plus puissant rempart contre la tristesse du découragement qui parfois nous tente, contre l'affadissement de notre vie. Ayez du sel, soyez le sel de la terre, nous dit Jésus, ou bien contre même la lassitude. Faire mémoire, s'exercer constamment à cet exercice de gratitude, est certainement une attitude qui est l'allié le plus sûr de l'espérance. Or, il me semble que c'est d'espérance tout particulièrement que nous avons besoin aujourd'hui. Il faut d'abord commencer par s'en rendre compte pour soi-même, être en mesure aussi, si nous cultivons cette attitude intérieure qui ne peut pas ne pas déboucher sur la gratitude et l'action de grâce, être en mesure à ce moment-là et de façon finalement très simple et naturel, de rendre compte autour de nous de l'espérance qui nous fait vivre. Il fut un temps où cela était réservé à ceux que l'on appelait les missionnaires. C'était des gens qui partaient au loin, dans les pays lointains, pour lesquels on avait une grande admiration, qu'on appelait les missionnaires. Mais si nous avons compris, et c'est déjà le livre de l'Exode qui nous le dit, que nous sommes un royaume de prêtres, une nation sainte, et il faudrait ajouter un troisième terme, que nous sommes nous aussi prophètes par le fait même de notre baptême, alors nous comprenons que nous sommes nous aussi, par définition, appelés à être des missionnaires là où nous vivons, des semeurs d'espérance. Car tant de personnes, nous le savons bien aujourd'hui, vivent dans l'obscurité, comme cette foule sans berger. Et elles attendent notre témoignage, car nous avons une parole à dire. Et nous ne pouvons pas nous dérober à cette mission.